Les élections provinciales reportées au plus tard au 28 juin 2026. Tôt ce matin pour nous, les députés ont adopté la proposition de loi organique qui doit encore être ratifiée demain par le Sénat. Page spéciale dès le début de journal avec les réactions provoquées par cette annonce. La préparation de la fête de la Toussaint à Nouméa, la ville s'organise pour accueillir les familles dans les cimetières de la commune tout le week-end. En métropole, nouveau bras de fer sur le budget autour de la taxe Zucman. Le PS fait de son introduction une condition de non-censure du gouvernement Lecornu. Israël dénonce une violation de l'accord de paix par le Hamas. Benjamin Netanyahou, soutenu par les États-Unis, ordonne la reprise des frappes ciblées sur Gaza. Et puis du football dans la page sport, l'équipe de France féminine battue par les Allemandes en demi-finale de la Ligue des Nations. Sur le territoire, Magenta connaît son adversaire pour le 7e tour de la Coupe de France. Ce sera Mulhouse, club de National 3. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'Assemblée nationale approuve donc le report des élections provinciales au plus tard au 28 juin 2026. La proposition de loi organique issue de la commission mixte paritaire a été adoptée cette nuit pour nous par 279 voix contre 247, Elisabeth Noir.
Il s'en est fallu de 32 voix, autant dire que comme prévu, le scrutin a été serré. La proposition de loi a été adoptée avec les voix du camp gouvernemental, DLR, de l'UDR d'Éric Ciotti et du Parti socialiste. Le reste de la gauche et le Rassemblement national ont voté contre. Le Sénat doit encore se prononcer la nuit prochaine pour nous, mais on sait qu'il existe une majorité dans la Chambre haute pour valider le report des provinciales. C'est le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, Laurent Panifou, qui a défendu le texte en l'absence de la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, qui défendait au même moment le texte de lutte contre la vie chère outre-mer devant le Sénat. Laurent Panifou qui a justifié le report des élections provinciales en parlant d'actes de responsabilité destiné à donner du temps au dialogue engagé en Nouvelle-Calédonie après les violences de mai 2024.
Cet accord en lui-même planifié et justifié le report des élections provinciales pour se donner le temps de mettre en œuvre les évolutions constitutionnelles et organiques qu'il prévoyait. Même si le FLNKS a choisi a posteriori de retirer les signatures de ses représentants, nous ne pouvons pas faire comme si l'accord n'était pas soutenu par toutes les autres formations politiques locales, non indépendantistes bien sûr, mais aussi les indépendantistes de l'UNI-PALIKA. Cependant, une raison supplémentaire justifie désormais le report. Le retrait du FLNKS démontre que l'accord de Bougival mérite d'être éclairé, précisé et le cas échéant, si l'ensemble des forces politiques signataires s'accordent, complété. Dans ce contexte, maintenir les élections provinciales serait une erreur. Il faut du temps pour se parler, du temps pour reconstruire la confiance. C'est le sens du texte. Il ne reporte pas pour retarder, il reporte pour apaiser. Il ne s'agit pas de suspendre la démocratie, mais de la rendre possible. Il ne s'agit pas non plus de renoncer au consensus, mais au contraire, de lui donner une chance supplémentaire de se construire.
Mais avant le vote du projet de loi, le député indépendantiste Emmanuel Tchibaou a déposé une motion de rejet sur la proposition de loi organique. En la défendant, il a dressé le tableau de la lutte indépendantiste depuis 1984 et il s'est déclaré fatigué d'enterrer les morts.
Aujourd'hui, l'histoire se répète. Et chaque fois que nous votons ici sur un sujet calédonien, on a l'impression que le cortège funeste qui nous accompagne souffle à nos oreilles la voix des morts. Notre culture dit que les morts nous regardent. Osons croire aussi que les vivants dans cette assemblée nous regardent aussi. C'est le sens de la motion de rejet qui est posée sur la table et de dire que si hier la France a instrumentalisé le dossier calédonien, nous demandons aujourd'hui à ne pas répéter ces mêmes erreurs.
Une motion de rejet qui n'a pas été adoptée et le débat a pu se dérouler normalement, chaque groupe exposant ses positions. Les votes contre des groupes LFI, écologistes et Rassemblement National étaient prévisibles. En revanche, la position du groupe socialiste était très attendue. Son représentant Arthur Delaporte a été sans équivoque. Son groupe soutient le texte visant à reporter les provinciales.
Ce texte n'est pas le dégel du corps électoral. Ce texte n'est pas une réforme constitutionnelle. Ce texte n'est pas la validation de Bougival. Ce texte est un report temporaire d'élections qui feront que le mandat aura duré 6 ans et demi, 7 ans. Aujourd'hui, la date qui est prévue par le report est une date maximale. Elle ne vise qu'à une seule chose, se donner le temps de discuter, se donner le temps d'échanger, se donner le temps de trouver un accord. Il n'y aura pas de report ad vitam aeternam. Il n'y aura qu'une chose, des élections qui interviendront le plus vite possible avec un seul objectif, permettre la poursuite d'une paix durable en Nouvelle-Calédonie.
Le député socialiste chahuté sur sa gauche pendant son intervention. Avec son groupe, en revanche, le député de la seconde circonscription, Emmanuel Tchibaou, a voté contre le report des provinciales. Dans sa prise de parole, il dit prendre acte de la volonté de l'État de décider à la place du peuple qu'il représente et de ne pas entendre les alertes formulées par le FLNKS.
Je constate aussi, non sans amertume, qu'en démocratie, les élections ne se tiennent plus à l'heure, mais à n'importe quelle heure, selon les convenances politiques du moment. Avec le recul, je constate qu'un seul objectif semble désormais guider l'État, asseoir une légitimité de façade, une légitimité qui viendrait sceller une fois pour toute l'avenir de mon pays sans prendre en considération la représentation légitime du peuple colonisé. Nous ne demandons qu'une chose, que l'on cesse de nous contraindre à discuter dans un cadre imposé. Nous avons rejeté Bougival, le FLNKS, c'est la parole qui nous a été donnée par le ministre d'État. Qu'il respecte la sienne, je ne crois pas que ce soit la volonté de la nouvelle ministre. Nous demanderons à l'entrevoir lorsqu'elle viendra en pays kanak pour lui rappeler. Ce que nous voulons, c'est un avenir librement choisi, fondé sur le respect et la reconnaissance mutuelle. Mais aujourd'hui, la confiance en l'État est clairement entamée.
Cette fois-ci, le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, n'est pas intervenu dans le débat, mais il a réagi après l'adoption de la loi par l'Assemblée. Et pour lui, ce vote est une très bonne nouvelle.
C'est une belle victoire pour tous ceux qui défendent l'accord en Nouvelle-Calédonie, qui défendent l'équilibre de Bougival et qui surtout défendent ce que veut dire une signature sur un papier. C'est une vraie satisfaction. On a dû se battre contre l'extrême gauche, c'était prévisible, mais plus surprenant contre le Rassemblement national, qui a voté contre le report de ces élections provinciales. Et je tiens à dire aux Calédoniens que le Rassemblement national a voté pour que des élections provinciales se tiennent dans 3 semaines avec un corps électoral gelé malgré les 3 référendums. Le Rassemblement national n'est plus le défenseur de la Nouvelle-Calédonie française.
Alors on le sait, le texte issu de la commission mixte paritaire avait introduit un petit changement. Il indique désormais que le report doit permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Il ne fait plus référence à Bougival. Mais Nicolas Metzdorf rappelle le cadre des discussions à venir, en tout cas pour les partisans de la France.
Maintenant, les choses sont très simples. On va reprendre les négociations. Soit il y a une possibilité de trouver un accord qui permette la réintégration de l'UCFLNKS sans qu'on fasse de concessions qui soient en dehors de nos prérogatives de garder la Nouvelle-Calédonie française. Soit on n'arrive pas à raccrocher l'UCFLNKS et c'est l'accord de Bougival qui va s'appliquer dans le calendrier prévu initialement.
Voilà pour les réactions depuis Paris. À noter que le gouvernement a suscité une petite confusion en annonçant qu'il inscrivait dans un premier temps la réforme constitutionnelle au calendrier du Parlement dès le mois de janvier, alors que justement les parlementaires avaient retiré la référence à Bougival dans le texte sur le report des élections pour tenter de calmer les esprits. Mais lors de la séance publique, Laurent Panifou, le ministre des Relations avec le Parlement, a reconnu que le calendrier avait pu susciter l'inquiétude et il a annoncé le retrait du texte constitutionnel de l'ordre du jour prévisionnel. Laurent Panifou qui a également confirmé que Naïma Moutchou arriverait ce week-end en Nouvelle-Calédonie. La ministre des Outre-mer débutera sa visite de 5 jours lundi matin. Et puis c'est la nuit prochaine que le Sénat doit examiner la proposition de loi organique. Il devrait l'adopter sans problème. Il restera ensuite quelques jours pour que la loi soit soumise au Conseil constitutionnel avant sa promulgation qui doit intervenir au plus tard le 2 novembre.
Et cette adoption du texte à l'Assemblée nationale provoque également de nombreuses réactions sur le territoire, Nicolas Legrand.
Oui, à commencer par celle de Sonia Backès, la présidente de la province sud et chef de file des loyalistes dans les discussions sur l'avenir institutionnel. Et sans surprise, elle estime que c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que la majorité des députés et des sénateurs, on le savait, mais les députés désormais soutiennent la démarche qu'on a engagée avec l'accord de Bougival, c'est-à-dire cette démarche de recherche de consensus sur laquelle on a mis beaucoup d'énergie. Je crois qu'on peut tous regretter que les extrêmes aient fait passer les problématiques nationales avant la sauvegarde et la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Mais bon, c'est une nouvelle étape de passé et je pense que c'est une bonne nouvelle.
Virginie Rufnacht, chef du groupe Rassemblement au Congrès, de son côté est évidemment satisfaite du vote à l'Assemblée nationale. Elle déplore toutefois l'attitude du Rassemblement national.
C'est une très bonne nouvelle, ça montre que ceux qui sont les plus violents et les plus virulents du côté indépendantiste ne marquent pas le point et qu'il y a une majorité à l'Assemblée également, malgré toutes les difficultés, pour donner la victoire à ceux qui veulent un accord pour la Nouvelle-Calédonie, de la stabilité et de la responsabilité. C'est consternant pour la Nouvelle-Calédonie que le Rassemblement national fasse le même jeu que la France insoumise. C'est LFI, RN, même combat, c'est dramatique pour les Calédoniens, c'est une véritable trahison. En tous les cas, il n'y a pas manqué une seule voix du côté de la droite républicaine. Et puis je veux saluer également Éric Ciotti, que j'ai beaucoup eu ces deux dernières semaines, et qui a fait le choix de ne pas s'aligner sur le Rassemblement national, mais de faire le choix de soutenir la Calédonie française en votant pour le report des élections provinciales.
Côté indépendantiste, Jean-Pierre Djaïwé, le chef du groupe Uni au Congrès, est satisfait de ce report et rappelle que le Congrès avait émis un avis favorable à cette proposition de loi organique à une large majorité. Jean-Pierre Djaïwé qui déclare qu'il s'inscrit toujours dans le respect de la signature de l'accord de Bougival et du calendrier qui est annexé pour sa mise en œuvre. Jean-Pierre Djaïwé réaffirme le soutien de l'Uni au projet de Bougival en s'appuyant sur un petit exercice de mathématiques.
Si on ramène le résultat en pourcentage, ça fait 53% pour le report des élections provinciales et 47 contre. Et quand on fait un parallèle avec les résultats de la deuxième consultation en 2020, le oui a obtenu 47% et le non 53%. Mais on se rend compte d'une chose, c'est qu'il n'y a pas à crier victoire d'un camp contre un autre. Ces résultats nous indiquent clairement qu'il faut que l'on parvienne à trouver une solution qui tienne compte à la fois de ceux qui veulent que le pays soit maintenu dans la France et puis ceux qui veulent que le pays accède à la pleine souveraineté, précisément l'accord de Bougival, c'est ce processus-là qui est proposé. Et pour nous, tout ça, ça va dans une trajectoire qui doit nous mener vers une souveraineté pleine et entière en partenariat avec la France pour l'exercice des compétences régaliennes qui seront transférées une fois que les Calédoniens l'auront accepté.
Le FLNKS, de son côté, n'a pas encore réagi à ce vote, mais annonce une mobilisation vendredi matin devant le Haut Commissariat pour dire non au report des provinciales et non à Bougival. Réaction également de la société civile. L'association Un cœur, une voix est satisfaite du report des élections provinciales, car sans ce vote des députés, les élections auraient dû se tenir en novembre avec un corps électoral gelé. Raphaël Romano est le président de l'association Un cœur, une voix.
C'est une première bonne étape. C'est surtout une victoire, pas d'un camp contre un autre, mais de tous les Calédoniens. Pourquoi de tous les Calédoniens ? Parce que ça permettra de mettre peut-être fin à une discrimination qui n'est plus acceptable aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes qui ne peuvent pas voter, qui ne peuvent pas participer au débat démocratique. Ce n'est plus acceptable. Donc c'est une première victoire pour tous les Calédoniens, pour le vivre ensemble, le vivre en paix, pour que tout le monde puisse s'exprimer et que tout le monde puisse aller voter. Bien sûr, c'est une première étape de l'Assemblée nationale. Il faut que ça passe encore au Sénat demain. Mais c'est une très bonne chose pour tous les Calédoniens.
Et hier soir, l'association Un cœur, une voix a organisé une réunion publique au bout du monde à Nouméa pour faire notamment un point sur les recours juridiques de l'association qui lutte pour le dégel du corps électoral. Fin septembre, le Conseil constitutionnel avait reconnu que le gel du corps électoral allait à l'encontre des principes d'égalité et d'universalité du suffrage, mais il affirmait qu'il est conforme à la Constitution parce que l'accord de Nouméa ne peut être considéré comme caduc. Et même si l'association Un cœur, une voix souhaite un accord politique qui viendrait dégeler ce corps électoral provincial, elle poursuit son action sur le terrain judiciaire. On retrouve Raphaël Romano.
On continue, c'est ce qu'on a dit hier soir à nos sympathisants, adhérents et à toutes les personnes qui sont venues à notre réunion. Il est impératif qu'il y ait une décision de justice. Pour résumer la procédure en cours, le Conseil constitutionnel s'est prononcé en disant que le corps électoral gelé était légitime. Nous ne pensons pas que ce soit le cas. On continue la procédure. Il y a un retour de la navette, puisque à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel. Donc il y a des écritures complémentaires qui ont été rédigées par nos cabinets d'avocats spécialisés en droit constitutionnel. Et on devrait avoir un retour dans les 2-3 prochains mois sur le fond. C'est-à-dire que le Conseil d'État pourra dire réellement ce qu'il pense du gel du corps électoral et la Cour de cassation également. À l'issue de ça, on aura épuisé toutes les voies de recours nationales et on ira plaider notre cause devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant la CEDH de Strasbourg.
Et lors de la réunion publique de l'association Un cœur, une voix, hier, Sonia Baquès a pris la parole pour évoquer l'accord de Bougival et le processus en cours, mais aussi Naya Wateu et Marie-Laure Ukewe qui ont plaidé dernièrement pour le dégel du corps électoral et pour l'accord de Bougival devant le C24 à l'ONU à New York.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. Êtes-vous satisfait qu'une majorité se soit dégagée à l'Assemblée nationale pour reporter les élections provinciales au plus tard à juin 2026 ? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 74% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent ne pas être favorables à la création d'un centre de semi-liberté pour désengorger le camp Est en attendant la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire. Ils sont en revanche 26% à être favorables à un centre de semi-liberté. Avant de marquer une première pause dans ce journal, je vous rappelle que la ministre des Outre-mer a confirmé son prochain déplacement en Nouvelle-Calédonie. Naïma Moutchou quittera Paris samedi. Elle arrivera dimanche sur le territoire et sa visite officielle, qui doit durer la semaine, débutera lundi prochain. Il est 11h45, la première pause de ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité en Nouvelle-Calédonie avec un animal qui fait beaucoup parler de lui, c'est un requin léopard qui a été aperçu à l'intérieur du filet à la baie des Citrons ce dimanche. Il s'agit d'un jeune mâle qu'un plongeur a surpris lors de l'une de ses sorties, Charlotte Coulson.
Il a vraisemblablement réussi à se faufiler entre les mailles du filet, une protection que la ville de Nouméa a pourtant installée pour éviter que les requins pénètrent dans la zone de baignade. Mais rassurez-vous, le filet ne cible pas le requin léopard puisqu'il est totalement inoffensif. Les services de la mairie ont toutefois fait appel à l'aquarium des Lagons pour essayer de le remettre de l'autre côté et s'assurer qu'il ne reste pas coincé. Sans succès, hier, le requin a décidément choisi de n'en faire qu'à sa tête. Il devra donc tenter de ressortir par lui-même, en tout cas pour le moment. Un petit événement qui a tout de même attisé la curiosité des passants cette semaine.
J'adore cet animal et beaucoup de gens ont des fausses idées sur le requin. Donc là, le requin léopard, il est inoffensif. Donc c'est l'occasion de venir le voir. Et puis, je fais découvrir la famille qui est venue de métropole. On regarde tout ça de loin.
Non, je ne l'ai pas vu. De toute façon, ça ne m'inquiète pas. Ce qui est inquiétant, c'est que s'il n'arrive pas à sortir, je préférerais le voir dehors.
Ben, je pense qu'il ne faut pas déranger la faune et puis il faut essayer surtout de la respecter pour justement avoir le plaisir de pouvoir l'apercevoir.
Effectivement, la venue de ce jeune requin léopard n'est pas une attraction. La baie des Citrons est d'ailleurs un lieu de ponte pour au moins une femelle requin léopard. Certains usagers s'inquiétaient d'ailleurs de voir son cycle de ponte perturbé par l'installation du filet. Mais l'aquarium des Lagons, qui suit de près la population, a déjà récupéré des œufs il y a quelques semaines. Signe que la femelle pondrait donc toujours en dehors du filet. Et c'est tout pour moi.
C'est tout pour vous. Ben écoutez, je vais vous parler maintenant de l'accès au ponton de la plage du Château Royal qui est interdit jusqu'au 23 novembre prochain. Des travaux de réfection vont en effet être menés par les services de la mairie après des dégradations volontaires récentes. Certaines planches du ponton ont en effet été arrachées, ce qui met en danger les nageurs. La ville demande de respecter les consignes des nageurs sauveteurs sur place en attendant la réouverture. En bref, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ordonne à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures urgentes pour améliorer les conditions de détention au camp Est. Il avait été saisi par 50 détenus dans le cadre d'un référé liberté. Dans son ordonnance, le président du tribunal enjoint à l'administration de prendre toutes les mesures pour lutter contre la surpopulation carcérale et les matelas au sol. Il ordonne également de remédier à la présence excessive d'animaux nuisibles et d'assurer la séparation du bloc sanitaire dans les cellules partagées. Quand les élèves s'impliquent dans la préservation de l'environnement, un comité de pilotage des aires éducatives environnementales est proposé par la province Sud. C'est un dispositif qui s'adresse à l'ensemble des établissements scolaires publics et privés de la province. Sylvie Charmant, chargée de communication à la direction du développement durable de la province Sud.
Aujourd'hui, on fait la restitution des projets d'aires éducatives environnementales. Donc c'est un dispositif provincial pour encourager les élèves à découvrir et à préserver leur environnement. Les élèves travaillent sur différentes thématiques qu'on peut regrouper en découverte de l'agroforesterie, de la forêt sèche et du milieu marin. En fait, on fait la restitution des projets. C'est des projets qui se déroulent sur une année, qui font intervenir des associations spécialistes dans les domaines que j'ai cités, transmettent leurs connaissances aux élèves sur le terrain. Ils font des visites ou même en classe pour la théorie. Donc voilà, aujourd'hui, les élèves, ils vont présenter leur bilan. Ils ont fait des vidéos ou des diaporamas et ça va être l'occasion d'échanger, de découvrir ce qu'ils ont appris et ce qui en ressort.
À l'heure actuelle, 6 écoles primaires, 7 collèges, un internat provincial et 10 lycées mènent des actions en proposant des projets pour contribuer à la sauvegarde de la biodiversité calédonienne. Près d'une centaine d'espèces endémiques ont ainsi été plantées dans ou autour des établissements. Olivier Chartier est professeur de SVT au lycée La Pérouse.
Je suis venu avec 3 élèves, c'est des élèves de terminale qui ont participé activement au projet d'aire éducative environnementale au sein du lycée. Ils sont venus pour présenter leur projet, tout ce qui s'est passé au cours de cette année, comment on a fonctionné, les résultats qu'on a eus. Le projet s'inscrit dans un programme proposé par la province sud, donc les aires éducatives environnementales. Et nous, on a travaillé sur l'agroforesterie. On le fait depuis plusieurs années maintenant et ça permet de sensibiliser un maximum d'élèves en fait, à ce type d'agriculture qui est durable. Et on a un autre volet qui est la forêt endémique et forêt sèche. Ils viennent sur la base du volontariat. Donc on a une séance par mois à peu près, donc une dizaine de séances par an. Et on a à peu près 25 à 30 élèves qui viennent à chaque séance. Alors il y en a qui adorent ça et qui reviennent plusieurs fois, mais on a des nouvelles têtes qui viennent. Et donc ça permet de transmettre l'information et on voit que nos jeunes sont quand même sensibles à l'environnement et à leur préservation.
Et plus de 500 élèves sont impliqués dans ce dispositif et sont accompagnés par 5 partenaires associatifs et professionnels du secteur environnemental. Une information pratique pour les automobilistes, le prix du carburant va grimper le mois prochain. Dès le 1er novembre, l'essence augmentera de 1,40 francs le litre pour afficher 157 francs le litre. Côté voiture diesel, c'est aussi une hausse du prix, plus 2,10 francs, ce qui va faire passer le litre du gazole à 139,70 francs.
Radio Rythme Bleu, 11h51.
Le week-end de la Toussaint approche à grands pas et comme chaque année, une forte affluence est attendue dans les cimetières de Nouméa, notamment celui du 4e et du 5e kilomètre. La ville a donc pris ses dispositions pour accueillir au mieux le public en ce jour si particulier, Charlotte Coulson.
Le 1er novembre, c'est une journée symbolique, une journée où les morts sont mis à l'honneur. Les familles en profitent pour embellir les tombes de leurs proches. Si les fontaines à eau sont fermées la majeure partie de l'année, elles sont rouvertes depuis le 20 octobre. Mathieu Galéa est chef du service de la vie citoyenne en charge des services funéraires de la ville de Nouméa.
Ça fait plusieurs années que les fontaines ont été fermées en dehors des périodes de la Toussaint. Donc il y a eu une première fermeture qui a été décidée quand il y a eu Wolbachia, notamment pour tout ce qui est la lutte contre les moustiques. Et puis il y a malheureusement une mauvaise utilisation des fontaines qui sont bouchées, qui sont mal utilisées. Néanmoins, la période de Toussaint est une période où on remet les fontaines en eau. Ça permet aux gens de nettoyer les tombes, d'avoir accès à l'eau. On les invite à pas jeter n'importe quoi dans les fontaines pour pas qu'elles soient bouchées et qu'elles puissent servir à tout le monde. Donc elles sont en activité aux 2 cimetières, au cimetière du 4e et au cimetière du 5e kilomètre.
Les fontaines resteront en service jusqu'au 12 novembre inclus. De quoi préparer au mieux la tombe de ses aïeux pour ce jour spécial. Et chaque année, plusieurs milliers de Calédoniens honorent d'ailleurs cet engagement. En 2024, ils étaient 3837 à utiliser le service de navette que la mairie a mis en place il y a 8 ans déjà et qui sera de nouveau actif cette année à partir de demain jusqu'à vendredi de 7h30 à 18h et puis samedi et dimanche de 7h à 18h.
Donc il suffit de se présenter à l'entrée centrale du cimetière. On a tout type de navettes, on a des voitures, on a des camions s'il y a du matériel à transporter, on a des véhicules de type berlingot pour emporter les grosses fleurs, les sacs de terre, les sacs de sable, et on vous dépose où vous voulez, et on peut même faire des sauts de puce dans le cimetière si vous avez besoin. Je reprécise que même les personnes qui ont une carte d'accès au cimetière, les personnes de plus de 80 ans qui ont une carte qui leur permet d'accéder au cimetière ou les personnes à mobilité réduite devront aussi utiliser ces navettes. On a des places qui leur sont réservées pour garer leur voiture juste à côté de l'entrée et que les navettes viennent les chercher et les emmènent au lieu où ils pourront se recueillir.
Et même si les cimetières sont supposés être des sanctuaires, certaines tombes ont été dégradées les semaines passées. Pour garantir la sérénité des familles calédoniennes en ce jour de recueillement, la mairie a donc pris ses dispositions avec la police municipale.
Effectivement, on a eu malheureusement des problèmes de détérioration à l'intérieur du cimetière. Depuis ces événements, avec le concours de la police municipale et des agents des services funéraires, on a renforcé les rondes à l'intérieur du cimetière. Bien évidemment, ce jour-là, ce sera encore plus renforcé. Le samedi et le dimanche, la police municipale sera présente. Et la police nationale et la police municipale ont été informées du dispositif et assureront des rondes régulières à l'intérieur du cimetière. Et on a ce jour-là un dispositif important, plus des agents qui tournent et qui vérifient que tout se passe bien.
Notez également qu'une application vous permet de retrouver facilement la tombe de vos proches et même d'avoir des informations sur son état. Le plan interactif des cimetières est à retrouver sur le site de la ville de Nouméa.
85 ans d'amitié entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Le consulat général d'Australie à Nouméa célèbre toute cette semaine cet anniversaire de la représentation diplomatique australienne sur le territoire. Une histoire qui a débuté le 6 août 1940 et sur laquelle est revenue la consule générale d'Australie en Nouvelle-Calédonie. Anne Lisung était notre invitée ce matin.
C'est une histoire peut-être peu connue, mais l'Australie a répondu à l'appel de Charles de Gaulle pour aider a installé son gouverneur ici en Nouvelle-Calédonie. C'était Henri Soto. Il était en Nouvelle-Hébrides à l'époque et il n'arrivait pas à se déplacer ici. Donc c'était notre bâtiment militaire, le HMAS Adelaide, qui a justement escorté ce gouverneur ici et qui a permis l'installation de la France libre ici en Calédonie en 1940. Et après, on a envoyé notre toute première représentant diplomatique, Bertrand Ballard, maintenant notre consulat ici en Nouvelle-Calédonie, à 19 membres de staff, dont 6 diplomates. Donc ça n'a jamais été si grand.
Au fil des ans, la coopération entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie s'est intensifiée et plusieurs axes prioritaires sont inscrits sur la feuille de route du consulat.
Je suis guidée, tout comme mes homologues français et calédoniens, par la feuille de route France-Australie qui a été signée par nos deux leaders en fin 2023. Et les trois axes sont tout premièrement éducation et culture, deuxièmement changement climatique et l'environnement, et troisièmement coopération sur le plan militaire. Donc, à travers ces trois axes, on fait notre travail en focalisant sur ça.
Et notez qu'une vidéo va être proposée sur les réseaux sociaux pour retracer les moments marquants de la collaboration entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie ces 85 dernières années. Une interview d'Anne-Lise Young à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. L'Australie qui va expulser vers Nauru le premier criminel étranger incarcéré en Australie. C'est le résultat d'un accord récemment signé entre les deux pays et l'information a été confirmée par le Premier ministre de Nauru, la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cet individu fait partie des 355 criminels nés à l'étranger, dont des pédophiles et des meurtriers, qui ont avancé qu'ils risquaient la peine capitale s'ils étaient renvoyés dans leur pays d'origine. L'Australie a donc décidé de les envoyer plutôt à Nauru, dans le cadre des accords que les deux pays ont récemment conclus. Ces accords prévoient notamment que la petite île micronésienne percevra de Canberra une somme équivalente à 28 milliards de nos francs lors de l'arrivée du premier expulsé. L'Australie s'est également engagée à verser un paiement annuel proche des 5 milliards de nos francs en fonction du nombre d'expulsés supplémentaires qui auront été transférés à Nauru. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h58. Après une nouvelle pause dans ce journal, on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres. RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec l'actualité en métropole, et le camp gouvernemental va-t-il encore céder au Parti socialiste ? C'est ce que redoutent certains. Alors que l'amendement pour introduire la taxe Zucman réclamée à corps et à cri par les socialistes sera étudié en fin de semaine, le PS fait de son introduction dans le budget une condition de non-censure du gouvernement Le Cornu. Même si le texte est allégé par rapport à sa version initiale, l'exécutif refuse pour l'instant de le soutenir. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Pourtant, le PS a déjà revu sa copie. La taxe Zucman prévoyait 2% d'imposition sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, mesure qui n'aurait pas trouvé de majorité dans l'hémicycle. La gauche propose donc d'imposer à 3% les patrimoines supérieurs à 10 millions d'euros. Mais le gouvernement s'y oppose toujours. Maude Bréjon sur BFM TV.
Tout ce qui toucherait demain à l'appareil productif,
à l'emploi et à l'innovation, le gouvernement y sera opposé. Et vous pouvez l'appeler Zucman, Zucman Light. À partir du moment où ça touche à l'appareil productif, nous serons contre.
Une position de fermeté qui relance les menaces de censure du PS. Romain Eskenazi, porte-parole des socialistes.
Notre revendication, c'est la taxe Zucman. Nous avons fait un pas en acceptant de faire un amendement de repli rédigé à partir des déclarations du Bloc central. À partir de ce moment-là, la balle est dans leur camp. Et donc, si jamais ils restent fermés à tout compromis, eh bien, à ce moment-là, ce sera censure. On a toujours été clair.
Une menace que le PS aimerait, au fond, ne pas avoir à exécuter. Mais la gauche veut obtenir une victoire à brandir auprès de ses électeurs. La partie de poker menteur se poursuit donc et devra trouver une issue d'ici la fin de semaine.
Le trafic ferroviaire a été très fortement perturbé hier sur la ligne TGV Sud-Est entre Paris et Montpellier, Marseille ou encore Nice. Annulation, retard, au total 50 000 passagers ont été touchés. C'est un acte de sabotage qui est à l'origine de ces perturbations. Des câbles ont été incendiés dans la région d'Avignon et les pistes s'orientent vers les groupes d'ultra-gauche puisqu'un message de revendication a été découvert sur une plateforme en ligne. Axel Ron est le porte-parole du syndicat police CFTC.
Ce sont des modes opératoires de ces militants, souvent issus des mouvances anarchiques. Ils vont monter des opérations commando, cibler des endroits névralgiques pour dégrader et emmerder aussi les Français. Toute cette région est malheureusement gangrénée par des embryons de l'ultra-gauche qui n'hésitent pas à s'attaquer à ces symboles.
Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs du sabotage qui risquent de lourdes peines. Le procès de 10 personnes accusées de harcèlement sexiste, 8 hommes et 2 femmes, comparaissaient la nuit dernière pour nous pour avoir relayé sur les réseaux sociaux les rumeurs sur la transidentité supposée de Brigitte Macron, qu'il croit être un homme. La fille de la première dame de France a témoigné pendant le procès. Le ministère public a requis des peines de 3 à 12 mois de prison avec sursis. La décision a été mise en délibéré. Et puis une semaine après la présidente du musée du Louvre, c'est la ministre de la Culture qui a été auditionnée par la commission des affaires culturelles du Sénat. 10 jours après le vol de bijoux d'une inestimable valeur patrimoniale, Rachida Dati a reconnu des manquements dans la sécurité du musée. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Devant les sénateurs, Rachida Dati défend la réactivité des équipes du musée tout en reconnaissant de graves dysfonctionnements.
C'est un échec pour tout le monde, un échec pour le musée du Louvre. Des failles sécuritaires ont bien existé. Elles ont bien existé et donc il faudra y remédier.
La ministre de la Culture précise avoir lancé 3 initiatives, une évaluation interne avec le ministère de l'Intérieur, une mission parlementaire et une enquête administrative. 3 démarches qui, elle le promet, ne resteront pas sans suite.
Je prendrai toutes les mesures qui s'imposent s'agissant des défaillances, des manquements et des responsabilités. Toutes les mesures qui s'imposent, d'une part pour sécuriser très rapidement le musée, et d'autre part pour revoir une nouvelle organisation plus adaptée. Un tel événement ne peut pas rester sans conséquences et sans action immédiate.
Un discours ferme alors qu'un peu plus tôt, le président de la commission de la culture au Sénat, Laurent Lafon, avait estimé à l'issue d'une visite du Louvre que la sécurité de l'établissement n'était pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée aujourd'hui.
À l'étranger, la Jamaïque frappée de plein fouet par une tempête de très très forte intensité. Des rafales de vent ont été mesurées jusqu'à 300 km/h. On ne connaît pas la gravité des dégâts qui sont en cours d'évaluation, alors que le cyclone qui a légèrement perdu en intensité se dirige vers Cuba, où des évacuations préventives ont été mises en place. Benjamin Netanyahou a ordonné la reprise des frappes ciblées sur Gaza. Le Premier ministre israélien dénonce une violation du cessez-le-feu et de l'accord de paix par le Hamas. Les terroristes ont en effet rendu les restes d'un corps d'un otage aux Israéliens, mais après les vérifications ADN, il s'avère que le reste de ce corps avait déjà été remis à Israël il y a 2 ans. Ces frappes ont donc pour but de montrer que le gouvernement israélien ne cédera rien, estime le géopolitologue David Rigoulet-Rose.
C'est un message à ceux qui sont en mesure de peser sur le Hamas, puisque du côté israélien, on considère que le Hamas instrumentalise la remise des corps pour retarder la mise en œuvre de la deuxième phase. Parce que dans la deuxième phase, l'enjeu crucial, c'est le désarmement du Hamas.
Et ces frappes israéliennes sur Gaza sont soutenues par les États-Unis, mais aussi par le collectif des familles des otages en Israël. Midi 4, la dernière pause de ce journal avant l'actualité sportive avec du football notamment et Magenta qui connaît son adversaire pour le 7e tour de la Coupe de France. Ce sera Mulhouse, un club de National 3, on en parle dans un instant.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Chez Allwood, c'est le mois du deck. Kohu, Radiata, Bambou Noir, Kumaru, plus de 10 essences à découvrir. Et jusqu'au 31 octobre, pour l'achat de deck avec ses vis, le solivage est offert. Voir conditions en magasin. Allwood, 22 rue Descartes à Ducos ou sur Facebook.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et nous allons donc parler football, puisque l'AS Magenta connaît désormais son adversaire pour le 7e tour de la Coupe de France. Le match aura lieu le 15 novembre prochain, Michael Juneski.
Et ce sera donc le Mulhouse FC à domicile pour les joueurs de l'ASM. Au stade Nouma Dehlé, les vainqueurs de la Coupe de Calédonie tenteront de battre la formation métropolitaine qui n'en est pas à son premier déplacement sur le territoire. L'équipe de la région Est de la métropole avait déjà hérité du tirage au sort les conduisant jusqu'en Calédonie en 2012. Pour y affronter à l'époque l'AS Lossy. Mulhouse, actuellement en National 3, l'avait emporté sur le score de 3-0. Toujours pour la petite page historique, on rappelle que l'AS Magenta est le seul club calédonien à avoir passé une fois le 7e tour de la Coupe de France. C'était en 2010 contre Dunkerque. Mais aujourd'hui, les conditions sont différentes et c'est une nouvelle génération qui se prépare à relever le défi, explique Pierre Wadjoka, le coach de l'AS Magenta.
Oui, on est le seul club à avoir passé le 7e tour. On sait que c'est très difficile parce qu'on joue contre des N3, des N2, voire des nationales qui sont habitués à jouer ce genre de match tous les week-ends. Nous, on a, ça fait depuis un mois, on ne joue plus parce que le championnat s'est arrêté. Est-ce que ça peut être un inconvénient ou un avantage pour mieux se préparer? Je ne sais pas. Ça, on le saura toujours après. Hein. Par contre, est-ce que ça sera la bonne cette année? On ne sait pas. Comme je disais tout à l'heure, on le saura toujours après. Mais on se prépare bien. Les joueurs ont hâte d'y arriver. Ils sont motivés. C'est des joueurs qui n'ont jamais joué le 7e tour de Coupe de France. C'est la première Coupe de Calédonie à tous ces joueurs-là. Et on sait très bien que le 7e tour de Coupe de France, il y a une saveur particulière. Et la magie de la Coupe, c'est qu'il y aura peut-être des surprises. Pourquoi pas pour nous? C'est vraiment avoir cet esprit de compétiteur, de vouloir rien lâcher, de vouloir gagner, mais avec beaucoup d'intelligence, d'humilité, beaucoup de choses. Mais ça se travaille pas du jour au lendemain. Il faut travailler ça aux entraînements, aux séances. Il y aura beaucoup de solidarité. On va courir, il faut courir. La compétition demande d'avoir un bon état d'esprit, mais aussi sur l'aspect athlétique. Il faut être un athlète avant d'être un joueur de foot.
Pierre Wadjoka, l'entraîneur de l'ASM. Le duel Magenta contre le Mulhouse FC à suivre le samedi 15 novembre prochain sur la pelouse du stade Nouma Dehlé.
Le football, c'est aussi la sélection calédonienne des moins de 17 ans qui se prépare pour le mondial de sa catégorie d'âge au Qatar. Elle est actuellement à Dubaï et affrontera ce soir la sélection de Zambie pour un dernier test match avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. L'entrée en liste des Calédoniens dans ce mondial, ce sera le 4 novembre et ce sera face au Portugal. L'actualité sportive en Calédonie aussi avec du cyclisme sur piste. Nos jeunes sélectionnés débuteront ce soir les championnats de France Espoir.
Oui, nos quatre jeunes cyclistes dans les starting blocks, Luis Savitz, Kéryl Moutry, Enzo Martoreggio et Chad Charret qui sont prêts à défendre les couleurs de la Nouvelle-Calédonie dans ces France Espoir piste après des semaines d'entraînement intensifs. Ils s'élanceront sur le vélodrome de Loudéac en Bretagne. Ils sont tous les quatre représentants de l'école calédonienne du vélo et accompagnés sur place d'Hervé Salin et d'Hugo Pommelet qui sont eux désormais licenciés en métropole.
On revient à l'actualité du football, mais cette fois-ci sur la scène nationale et internationale et au féminin. Les joueuses de l'équipe de France ont été éliminées en demi-finale de la Ligue des Nations.
Un match retour contre les Allemandes qui s'est terminé sur un nul, 2-0. C'est une cruelle désillusion pour les Françaises qui s'étaient inclinées à l'aller sur la plus petite des marques, 1-0. Les Françaises devront se remobiliser pour tenter d'aller chercher la 3e place à l'issue d'une double confrontation contre les Suédoises le 28 novembre et le 2 décembre. Les Allemandes, elles, défieront les Espagnoles tenantes du titre en finale.
En football, on notera que la 10e journée de Ligue 1 se disputera demain matin dès 5h. Le PSG sera notamment sur le terrain de Lorient. Au même moment, Lens, 2e du classement, se déplacera à Metz, la lanterne rouge. À 7h05, Marseille accueillera Angers. Monaco sera sur le terrain de Nantes. L'Olympique lyonnais sera pour sa part opposé au Paris FC. Et puis on va terminer avec du tennis et le 2e tour des Masters 1000 de Paris-Bercy.
Et parmi les faits marquants du jour, l'élimination du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, battu par le Britannique Cameron Norrie. L'Espagnol s'est incliné sur le score de 4-6, 6-3, 6-4. Côté français, une victoire de Corentin Moutet face à l'américain Riley Opelka. Le tricolore a renversé le match pour s'imposer 3-6, 7-5, 6-1 en un peu plus de 2 heures de jeu. Élimination en revanche du jeune Valentin Royer contre l'espagnol Davidovich Fokina, 4-6, 6-1, 6-4. Ce soir, hasard du tirage au sort, Arthur Rinderknecht retrouvera son cousin, le monégasque Valentin Vacherot, quelques semaines après le duel déjà des deux joueurs en finale des Masters de Shanghai, remporté par Vacherot. Quant à Alexandre Muller, il défiera le Canadien Félix Auger-Aliassime. Arthur Cazot croisera le fer avec Davidovich Fokina. Et Corentin Moutet tentera de prendre le dessus sur le Kazakh Alexander Bublik.
Merci beaucoup, Michael. Il est midi et 10 minutes. La fin de ce journal. Infomax se poursuit avec Thierry jusqu'à 13h. Ce sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité, comme chaque jour. Je vous souhaite une belle après-midi.